C'est le Cotin Tello, ton micro, parlant d'informatique et d'autres trucs antiques.
Il pique.
Il cause son boulot, monte sur ses gros chevaux.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes. Le brevet, non pas des collèges, bande de gamins, mais le brevet d'invention, protège une création technique permettant à son inventeur de disposer d'un temps déterminé d'exclusivité sur son invention avant que celle-ci ne soit entièrement dévoilée publiquement, permettant à n'importe qui d'en profiter. Le brevet a cette intention de rémunérer son auteur et donc de favoriser l'innovation tout en ne bloquant pas celle-ci et en l'élevant dans un second temps dans le domaine public pour être prise et améliorée. Durant sa période de protection, une trentaine d'années en général, l'invention est protégée par un service public. En France, ce rôle est assuré par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. L'équivalent artistique en est le droit d'auteur. Et pendant que le brevet a cours, il peut figer l'innovation qui en découle. Par exemple, si un homme des cavernes tel qu'Alain Finkielkraut avait déposé l'addition et refuse d'en proposer une licence aux autres chasseurs-cueilleurs de sa tribu, ses voisins de tribu tels Éric Zemmour n'auraient pu inventer la soustraction ou la multiplication qu'au moment où le brevet expire. Heureusement pour nous, les formules mathématiques ne sont théoriquement pas brevetables en Europe. Qu'entre deux personnages non fictifs cités, ce sont des hommes de lettres, pas de chiffres. C'est pour ça que quand ils disent des chiffres, ils disent beaucoup de conneries. Chaque année, en France, s'est déposé une dizaine de milliers de brevets et forcément bien plus de demandes de brevets. Malheureusement, les brevets sont vite devenus un moyen de pression, et ça, je t'en ai déjà parlé sur cette antenne avec les Bublis qui furent indûment menacés par King.com. Là, je vais montrer un usage très ironique des brevets comme monopole et comment son contournement a créé une gigantesque industrie. Le cinéma. Le cinéma est la combinaison de différentes trouvailles par des inventeurs géniaux. La pellicule souple, l'obturateur, la croix de Malte, les griffes et perforations, et j'en passe. L'un des tout premiers films tournés est la fameuse sortie des usines Lumière, ce qui fait penser, pour nous, Européens, que les frères Lumière sont les vrais créateurs du cinéma. Mais nous serions aux États-Unis, nous penserions que le vrai génie du cinématographe n'est autre que le grand Thomas Edison. Dans les années 1890, alors que le cinématographe n'était qu'un bébé balbutiant, tressautant et qui ne disait même pas un mot, l'inventeur businessman américain brevette un certain nombre de technologies du cinématographe, prétendant en être le créateur. Comme Edison avait déjà une sacrée expérience du business de l'invention, ah oui, l'ampoule à filament, le phonographe et tout ça, c'est presque lui. Il constitua une entreprise spécialisée dans la perception de ses droits et engagea une armée mexicaine de juristes et autres hommes de main. En 1908, il s'associe avec d'autres entreprises pour former le Motion Picture Patents Company, MPPC, parfois dénommé Edison Trust. Son consortium était tellement menaçant qu'il faisait fermer des salles de cinéma qui osaient projeter des films importés d'Europe ne comportant pas le logo Edison. La société employait une armada d'avocats et d'inspecteurs de terrain. Mais il se trouve que ces inspecteurs patrouillaient surtout dans le nord-est des États-Unis. Alors quand les petits studios indépendants basés à New York eurent marre de leur relance incessante, ils décidèrent de partir pour la Californie. David Wark Griffith y tourna en 1910 un premier film, In Old California, qui fit office de plaquette publicitaire pour les autres. Là-bas, on peut très rapidement avoir de superbes décors en moins d'une heure de route pour des plages, des montagnes et des déserts. De quoi tourner du drame censé se passer en Asie ou des westerns. Mais surtout, aucun inspecteur du MPPC. Le voyage depuis l'Est des États-Unis prenait à l'époque plus d'une dizaine de jours si tu ne loupais pas le 3h10 pour Yuma. Et les huissiers aux gros bras n'avaient pas envie d'aller frapper des portes aussi loin. Hollywood fut donc créé par rébellion. Pendant ce temps, les entreprises qui avaient créé le MPPC n'avaient toujours pas produit de films, sinon quelques petits courts-métrages, mais pas des features qui méritent une affiche et où la clientèle ira dépenser bien plus qu'un nickel. Les studios qui étaient restés à l'Est, eux, étaient étranglés financièrement par le Trust. Et les films importés du vieux continent avaient, eux, du succès à l'Est d'Éden. Or, en 1914, la guerre éclate en Europe. Et donc, les films qui venaient d'Allemagne, de France et d'Angleterre se firent beaucoup plus rares. Les studios indépendants en Californie profitèrent de l'aubaine et finirent par partir à la conquête de l'Amérique, puis du monde. Adolph Zukor, fondateur de la Paramount, rencontra un jour Edison. Si le cinéma était à l'époque muet et en noir et blanc, la tirade qu'aurait lancée Zukor à Edison est haute en couleur et mérite un beau carton intertitre. « J'ai traversé la moitié de l'Europe à pied pour échapper à des gens de ton genre !» Nikola Tesla, autre inventeur génial, fortement enquiquiné par Edison, n'aurait pas dit mieux. En 1918, le gouvernement fédéral ouvra une enquête sur le MPPC, le soupçonnant de pratiques anticoncurrentielles. Le consortium fut alors démantelé par ses actionnaires et les avocats trouvèrent d'autres patent trolls à défendre. En fond du futur immédiat, il est amusant de voir que l'industrie cinématographique américaine doit son succès à une bête tolérance et qu'elle a fini par prospérer malgré les menaces d'avocats. Il est encore plus amusant de constater qu'un siècle après, elle a tout fait pour bloquer la diffusion de films sur Internet, pour finalement s'associer à des acteurs qui eux aussi eurent leur petit moment d'illégalité loin hors de leurs toutes premières heures. Drôle de happy end. Donc, du 27 au 29 mars, donc c'est le week-end prochain, le Startup Weekend de Toulouse, ce sera à l'ICAM, avenue de Grande-Bretagne. Il faut se préinscrire. Si vous n'y restez pas pour le week-end complet, on peut seulement acheter le ticket pour le dimanche pour la revue projets qui sont menés quasiment à leur terme. On en a parlé à ce micro il y a 3 semaines avec Elvire Prochilou. On s'était bien éclaté. Je pense que ce sera toujours aussi drôle. En tout cas, je live-tweeterai le massacre. Yes. Je serai en toute méchanceté.
Ça marche.